Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
Le pape François a invité les fidèles à prier pour les chrétiens persécutés dans le monde à l'occasion de l'audience générale qu'il présidait sur la place Saint-Pierre ce mercredi. Une fois encore, le pontife a également dénoncé les bavardages et demandé de se mordre la langue afin de ne pas prononcer de médisance. L'écrivain français d'origine juive, Marek Alter, et 8 imams de France étaient présents place Saint-Pierre ce mercredi pour l'audience générale à laquelle participaient des dizaines de milliers de pèlerins. Xavier Sartre les a rencontrés. François ne s'en cache pas, les priorités de son pontificat seront sociales. Les défis économiques, politiques, culturels et sociaux de ce monde sont nombreux. Et il l'a rappelé lors de son dernier voyage en Sardaigne. Retour sur les défis de ce pontificat avec Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Les Bretons ont retrouvé leur église à Rome. Saint-Yves des Bretons, rendu au culte en mai dernier, a retrouvé une nouvelle jeunesse après plusieurs années de restauration. Nous en parlons à la fin de cette édition. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. Le monde a besoin d'unité. C'est l'appel lancé par le pape François à l'audience générale ce mercredi devant des milliers de fidèles venus l'écouter sur la place Saint-Pierre. Le Saint-Père a concentré sa catéchèse sur l'unité de l'Église universelle qui compte plus de 3000 diocèses éparpillés sur tous les continents. Que de culture et de langue, ainsi souligné François, le pape a voulu mettre en garde contre une église qui aurait oublié la solidarité en son sein même. Bernard de Cotigny.
Unité dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, unité des sacrements, unité dans le ministère. Ce sont les piliers qui soutiennent le grand édifice qu'est l'église catholique. L'église est une et indivisible. Il n'y a pas une église pour les Européens, une église pour les Africains ou pour les Américains, une autre église pour les Asiatiques ou une autre encore pour l'Océanie. Elle est la même pour tous, a insisté François. Il prend ainsi l'exemple des journées mondiales de la jeunesse qu'il a présidées au mois de juillet dernier. Ces journées sont un exemple de partage des cultures. On entendait parler toutes les langues, on voyait des visages tous différents les uns des autres. Les cultures s'étaient mélangées et pourtant, fait remarquer le pape, il y avait une profonde unité, tous étaient unis. Le pape appelle à ne pas privatiser l'église par pure égoïsme ou par manque de foi. Il interpelle aussi directement les fidèles. Quand vous entendez que de nombreux chrétiens souffrent dans le monde, êtes-vous indifférent ou bien c'est comme si une personne de votre entourage souffrait ? Le pape appelle ainsi à prier pour les chrétiens qui sont persécutés, ceux qu'il appelle ses frères et ses sœurs. Et puis, il appelle aussi à faire taire les bavardages qui sont à la base des divisions. Les bavardages blessent. Un chrétien, avant de faire du commérage, doit se mordre la langue, car ainsi, explique le pape, sa langue gonfle et il ne peut plus parler, il ne peut plus commérer. Nous vivons une époque où tous nous avons besoin d'unité, de réconciliation, de communion. Et l'Église est justement la maison de la communion. Pour François, les vrais chemins de l'Église sont l'humilité contre la vanité et l'orgueil, la douceur, la magnanimité et l'amour pour conserver l'unité.
Bernard de Cotigny. L'écrivain français d'origine juive Marek Alter et 8 imams de France étaient présents place Saint-Pierre ce mercredi pour l'audience générale à laquelle participaient des dizaines de milliers de pèlerins. L'ambassade de France près le Saint-Siège est à l'origine de cette initiative. Marek Alter s'est entretenu brièvement avec le pape François au milieu de la foule alors que les imams n'ont réussi à saluer le pape que de loin. Parmi eux, l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, dont les positions modérées et la volonté de dialogue avec les juifs sont inégalement appréciées au sein de sa propre communauté. Il a d'ailleurs rencontré la presse à l'ambassade de France après l'audience du pape François.
Et j'ai compris que nous, on a besoin de lui comme les chrétiens, ils ont besoin de lui. Parce que son message, il peut limiter beaucoup le racisme sur nous. Parce que nous sommes une minorité en Europe. Comme les minorités qui souffrent en Égypte et en Syrie, et qui souffrent ailleurs, la minorité religieuse chrétienne. Là, eux, ils ont besoin de lui. Nous aussi, on a besoin. Je trouvais que nous, on a besoin de lui. Ce n'est pas seulement un message d'une messe qu'il est en train de donner à ses fidèles ou tout ça. Nous sommes fidèles. Nous sommes une famille monothéiste. On a besoin d'un père. On a besoin d'un guide qui peut guider l'humanité, surtout aux proches des pauvres, simples. Moi, je croyais la vérité, il est simple, tellement il va rapprocher de nous. Mais avec sécurité, vous savez, si c'était Obama, je croyais qu'il se rapproche. Tellement il avait des barbus, il disait même. Mais je comprends le message. Le plus important, c'est la présence, notre présence devant. Vous voyez la foule derrière nous, il nous faut comme ça. Ça m'a touché. Sans le dialogue, sans s'ouvrir vers l'autre, on ramasse malheureusement que des claques, que de racisme, que de la haine.
Hassan Chalgoumi a aussi réagi aux violences au Kenya et contre les chrétiens en Égypte. On l'écoute.
L'Afrique, elle souffre. Où ça s'est passé le malheur? C'est en Afrique, au Kenya, en Égypte, la terre des pharaons. La terre des pharaons, aujourd'hui, elle souffre. Et qu'est-ce qu'elle propose l'Occident? De faire partir les chrétiens vers l'Europe, malheureux. Ça veut dire les extrémistes, on le laisse et les modérés, on leur donne. Non, ça c'est la faute. Il faut soutenir le modéré. Il faut soutenir le dialogue. Il faut avoir le courage de dire stop, on ne peut plus ça. 14 siècles, ils vivent ensemble. Une bande de barbus, malades mentales. Il est en train de l'assassiner, torturer, prendre en otage des familles et des villages, brûler des églises. Est-ce qu'on trouve ça c'est normal? Non, c'est mon devoir en tant qu'imam. En tant qu'un être humain qui a la peur pour l'humanité. J'étais à Jérusalem, je lui ai dit pardonnez-moi. Moi, pour moi, l'être humain est le plus sacré que la Mecque. Et que Jérusalem et que le Vatican aussi. La vie humaine, c'est le plus important. Maintenant, au nom de sacré, on massacre des vies. Au nom d'un petit texte, il ramène quelques versets coraniques. Ça y est, pour lui, la clé pour assassiner. Je trouve non. Il faut que nous, on s'inspire que la sacralité, la religion, elle vient pour respecter l'être humain.
L'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. Marek Alter est lui connu dans les médias pour son engagement en faveur de la paix au Moyen-Orient. Déjà il y a un peu moins d'un an, il s'était rendu en Israël et dans les territoires palestiniens aux côtés de 17 imams et responsables d'associations musulmanes de France. Marek Alter, pour qui il est urgent de dédiaboliser l'islam, entend encourager le pape François à poser un acte fort en se rendant à Jérusalem avec 50 cardinaux, 50 rabbins et 50 imams afin de prier pour la paix devant le mur des Lamentations. Xavier Sartre l'a rencontré mercredi matin.
C'est vrai qu'on nous a accueillis au Vatican de manière magnifique. Il y avait 10 sièges sur la place juste en face du pape, à part. Donc on nous voyait, toutes les télés nous voyaient. J'ai dit, il me faut une photo symbolique. Une délégation des cultes musulmans avec le chef de la chrétienté, un juif né dans le ghetto de Varsovie, c'est formidable. Alors, on voyait qu'il avait envie de le faire et ses conseillers autour disaient non, non, nous n'avons pas le temps, on a dépassé. Et alors, il s'est penché vers moi, c'était mignon. Et il m'a chuchoté à l'oreille, hein, ne soyez pas déçus, d'ici un ou deux mois, vous serez contactés et on va faire cette photo.
Pour vous, c'est important qu'on vous voie symboliquement, vous, les imams, le pape, sur une photo, sur une même image?
Oui, la violence commence là où termine la parole. Tant que les gens se parlent, ça n'entretue pas. C'est un principe. Même quand ils s'insultent, ce n'est pas grave. Vous insultez quelqu'un, il existe. Quand vous sortez votre Kalachnikov, vous le faites disparaître. Il cesse d'exister, même avant que vous tirez. Il n'existe plus. Donc c'est important, le dialogue. Le monde devient de plus en plus violent et montrer à la grande masse des chrétiens que l'islam, que pas tous les musulmans sont des assassins, c'est important. Parce que la haine, ça monte très vite. Dédiaboliser l'islam et de l'autre côté, montrer aux musulmans qu'il y a une autre aventure que les djihad en Syrie. C'est l'aventure des dialogues. Il y avait presque 100 000 personnes sur la place Saint-Pierre. Une foule immense. Et elle nous a vus. C'est aussi une aventure qui est dangereuse. Pas pour moi, pour ces imams, oui. Ils vont entrer chez eux. Certains vont leur dire, ah, vous êtes des traîtres à votre cause. Qu'est-ce que ça veut dire la cause? Alors il faudrait qu'elle explique que l'islam n'a jamais dit qu'il faut tuer les chrétiens. Nous avons fait un voyage important avant avec 17 imams à Jérusalem, où ils sont allés à Yad Vashem, en mémorial, où ils ont dit une prière en arabe pour les 6 millions de juifs assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale, la première fois dans l'histoire. Ils étaient menacés de mort après. Si on défend ces convictions, bah oui, on prend des risques. Mais l'objectif en vaut la peine.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Partons maintenant au Kenya. La conférence épiscopale du pays, le Conseil interreligieux et le Forum des leaders religieux de la côte du Kenya ont condamné l'attaque terroriste du centre commercial Westgate de Nairobi, la capitale. Cette action revendiquée par le groupe armé extrémiste musulman, les Chebab de Somalie, a fait 67 morts et 200 blessés selon un bilan officiel annoncé par le président kényan Uhuru Kenyatta. Dans des déclarations séparées rapportées par le service d'information catholique pour l'Afrique, les communautés religieuses ont exhorté le gouvernement à mener une enquête approfondie pour connaître tous les détails sur l'affaire et que les auteurs soient traduits en justice. Au nom de la conférence épiscopale, Mgr Philippe Agnolo, son vice-président, a adressé ses condoléances au président Kenyatta et à tous les Kenyans, en particulier à ceux qui ont perdu des proches dans l'attaque. Revenons maintenant sur le voyage du pape François à Cagliari dimanche dernier. Il s'annonçait avant tout comme une visite émotionnelle, mariale, personnelle en raison des liens entre le sanctuaire de Notre-Dame de Bonaria, patronne de la Sardaigne, et le nom de la ville natale du pape Bergoglio, Buenos Aires. Mais les prises de parole de François sur les questions sociales notamment ont donné une autre teinte à ce voyage pastoral. Avec passion et fermeté, le pape argentin a fustigé l'idolâtrie de l'argent comme socle d'un système économique injuste et oppressif et d'enjoindre les foules à se rebeller contre les idéologies aliénantes et immorales et à lutter contre les inégalités. François ne s'en cache pas, les priorités de son pontificat seront sociales. Les défis économiques, politiques, culturels et sociaux de ce monde sont nombreux et l'Église entend faire entendre sa voix. Prendre la défense des plus faibles et des opprimés, rappeler les dirigeants à leurs devoirs, travailler à l'instauration d'une société plus évangélique, voilà donc la mission de l'Église telle que la conçoit François. Écoutez l'analyse de Jean-Pierre Denis, le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Il est interrogé par Manuela Affigi.
Oui, on pouvait déjà le sentir même avant ce voyage. La principale chose qui frappe quand le pape François parle, c'est qu'il ne mâche pas ses mots. Il emploie toujours des expressions très, très simples, très directes et qui vont droit au but. Et ça, c'est toujours, je dirais, le cas. On se souvient par exemple sur l'immigration de son discours à Lampedusa. Ce qu'il vient de dire ici sur le travail, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Alors c'est vrai que les accents du pontificat du pape François sont maintenant très nets. C'est un pape qui a une fibre sociale en effet très prononcée. Les priorités de l'Église catholique, les priorités du pape semblent assez différentes, il faut bien le dire, de celles de son prédécesseur. Alors je sais que c'est un point qui est déjà actuellement controversé, hein. Certains insistent surtout sur la continuité entre le pape Benoît et le pape François. Il y a évidemment une continuité sur le fond, sur la doctrine, je dirais sur le catéchisme, ils pensent la même chose. Mais vous avez raison, les priorités ne sont plus du tout les mêmes.
En Sardaigne, le pape a eu des mots très durs contre l'idolâtrie de l'argent, contre les systèmes économiques générateurs d'injustices et d'inégalités. Mais il a surtout enjoint les populations à se rebeller contre les idéologies dominantes et oppressives. Cet appel à la révolte, c'est quand même quelque chose de fort de la part d'un pape.
Oui, bah écoutez, après tout, se révolter contre la tyrannie de l'argent, c'est une injonction évangélique. On devrait, au fond, trouver ça absolument normal quand on lit l'Évangile, que l'on écoute sans même être très attentif ce que dit Jésus, la tyrannie de l'argent, le fait qu'on ne puisse pas servir de maître, après tout, c'était le texte même de l'Évangile. Donc l'indignation du pape est normale, l'apathie des chrétiens face à ces problèmes, elle, est complètement anormale. Alors évidemment, encore une fois, ce que le pape François dit avec ses mots à lui, avec des mots directs, c'est aussi ce que, par exemple, Jean-Paul II avait dit. On a toujours retenu de Jean-Paul II qui s'était activé, je dirais, contre le communisme, mais on a voulu oublier ce qu'il a dit par la suite à propos du libéralisme économique. Donc l'Église, au fond, l'Église catholique, elle est à droite sur des questions sociétales de mariage, l'avortement, mais elle est aussi à gauche, voire très à gauche, sur les questions sociales, la question de l'argent, la question du travail, la question de l'immigration. Ce sont des sujets sur lesquels, si on devait classer absolument les papes sur un axe politique, il faudrait les mettre nettement à gauche et peut-être même à l'extrême gauche.
Ce voyage en Sardaigne, certains l'évoquent déjà comme une sorte de première encyclique sociale du pape François. D'autres évoquent une journée fondatrice, une journée qui marquerait véritablement le début du pontificat du pape François. Qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense que le pontificat a commencé par le geste du lavement de pied le jeudi saint dans une prison pour mineurs. C'était un geste qui était quand même extrêmement fort. Donc, depuis, les gestes se sont multipliés. Et je dirais en même temps que le pontificat n'a pas commencé, paradoxalement, dans la mesure où pour l'instant, le pape François n'exerce que le magistère de la parole. On attend donc de voir comment cela va se traduire, je dirais, en action. Et de ce point de vue, le véritable début du pontificat, c'est plutôt le mois d'octobre, donc très prochainement, quand le pape va recevoir les premières conclusions, propositions de la commission des 8 cardinaux qui est chargée de travailler sur la réforme de l'Église. Donc on est quand même dans cette période d'entre-deux où les accents sont fondamentalement nouveaux. Et ça, depuis ce qu'on sait du pré-conclave sur le choix vraiment de faire un diagnostic sur les causes des problèmes que rencontre l'Église. Donc, d'une certaine façon, depuis cette époque-là, le pontificat a commencé et en même temps, on attend des décisions et la façon dont le pape va mettre en œuvre ses intuitions.
Jean-Pierre Denis, interrogé par Manuela Affigi, un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. Bonne nouvelle pour les Bretons. Ils ont retrouvé leur église à Rome. Saint-Yves des Bretons, rendu au culte en mai dernier, a retrouvé une nouvelle jeunesse après plusieurs années de restauration. Très endommagée par les ravages du temps, cette église, bâtie à la fin du XIXe siècle sur le site d'une précédente église du XVe siècle, démolie pour cause de vétusté, a bénéficié d'une vaste mobilisation des pouvoirs publics français. D'une part, les pieux établissements français de Rome qui gèrent les cinq églises françaises de la ville des papes et d'autres du conseil régional de Bretagne ainsi que de mécènes privés. Cet engagement a permis de rendre tout son lustre à un symbole de la présence bretonne remontant au pape Nicolas V qui avait concédé au duché de Bretagne une église, un hôpital et un hospice pour accueillir les pèlerins bretons. Retour sur cette restauration avec Xavier Sartre.
Une façade discrète de blason de Bretagne encadrant le portail d'entrée, Saint-Yves des Bretons jouit d'une position privilégiée au centre de Rome, non loin de Saint-Louis des Français et de la place Navone. Elle fut reconstruite à la fin du XIXe siècle. Or, une église de cette période à Rome, c'est assez rare, d'où l'intérêt qu'elle représente du point de vue artistique pour la restauratrice Maria Gabriella de Monte.
Ils l'ont complètement, entièrement décoré avec un peintre qui s'appelle Seitz, 1881. Et c'est signé et daté. Et donc l'importance qu'on a une église totalement décorée 18e, c'est rare pour Rome parce qu'on a plutôt des choses un peu plus anciennes, mais des églises de cette période, c'est plus rare et cet état de conservation.
Si la décoration de l'église est relativement récente, un peu plus d'un siècle, ce n'est pas pour autant que cela fut facile à restaurer.
C'est plus facile de travailler sur les peintures à fresco, c'est-à-dire sur les affreschi. Et quand il y a une peinture comme ça, que c'est sur un enduit sèche, pas mouillé, c'est plus difficile. Les problèmes de consolidation, les problèmes de nettoyage, c'est un peu plus compliqué. Et donc ça, c'était la difficulté qu'on a trouvée un peu pour les opérations de restauration surtout.
Cette restauration a été financée par les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, propriétaires de l'église, mais aussi avec le soutien du Conseil régional de Bretagne qui, depuis quelques années, a décidé de venir en aide au patrimoine en Bretagne, bien sûr, mais aussi au patrimoine breton se situant hors de la région, mais à certaines conditions, comme l'explique Maria Vadillo, vice-présidente chargée du tourisme et du patrimoine.
Une des conditions, c'est que quand on aide un bâtiment à l'extérieur, il puisse y avoir un retour pour la Bretagne. Et pour nous, là, le retour, c'est le rayonnement de la Bretagne. C'est le fait que les Bretons qui se déplacent peuvent trouver un accueil ici. Et puis, la condition, c'était aussi que ce bâtiment qu'on a aidé ne reste pas fermé, puisque à ce moment-là, il ne serait pas valorisé.
Contribuer au rayonnement de la Bretagne dans le monde, c'est donc la raison pour laquelle la région a mis la main à la poche à hauteur de 60 000 euros, soit le quart du budget. Faire vivre l'église, c'est aussi une condition requise, d'où ce projet encore dans les cartons.
Il y a des niches qui ne sont pas décorées, et en lien avec Mgr Dornelas de l'archevêché de Rennes, il y avait l'hypothèse de faire travailler des artistes bretons sous forme d'appel à projet. Et là, on pourrait les accompagner, d'autant que le projet de restauration de Saint-Yves des Bretons a reçu pas mal de donations, donc de mécénat. Et nous, on donne une prime à ceux qui, en plus, mobilisent du mécénat. Donc on pourra peut-être s'investir via cette prime de 15 000 euros pour aider la suite.
Saint-Yves des Bretons retrouve donc tout son lustre, mais surtout sa vocation première, accueillir les pèlerins, en premier lieu les Bretons, et servir d'écrin pour des messes en français assurées par les prêtres de Saint-Louis des Français.
Ainsi prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de Radio Vatican.